en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Canal Académie, la première radio académique francophone pour cette émission en séance qui vous propose de suivre en léger différé les séances publiques prononcées devant l'Académie des sciences morales et politiques tous les lundis à 15h. Effectivement, chaque semaine, une personnalité, membre de l'Institut ou extérieur à l'Institut de France, vient présenter une communication sur un thème défini pour l'année. Le thème de travail défini pour l'année 2005 par le président de l'Académie, M. Jean Tullard, l'historien Jean Tullard. Le thème tourne en fait autour de cette question: faut-il, doit-on faire confiance aux historiens? Et le lundi 4 avril 2005, c'est Emmanuel Leroy-Ladurie, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui est venu prononcer cette communication consacrée à l'histoire du climat. M. Leroy-Ladurie, grand spécialiste de ce domaine. Peut-on écrire l'histoire du climat? Nous rejoignons tout de suite la petite salle des séances.
Oui, je ferai plutôt un historique sur quelques siècles, depuis, disons, le XIIIe siècle, quitte à nous interroger ensemble sur la légitimité même de ma démarche, car je me souviens toujours de ce livre sur la démographie de Périgueux au XVe siècle, qui était entièrement consacré à la question suivante: a-t-on le droit de faire l'histoire de la démographie de Périgueux au XVe siècle? Donc je préfère parler des faits, et puis je pense qu'on pourra discuter en effet de cette légitimité. Disons que je partirai de ce qu'on appelle le petit optimum médiéval, qui n'est pas un optimum planétaire sans doute, mais qui est un fait régional de l'Europe. Du reste, moi-même, je ne suis pas un planétologue, je laisse ce soir à nos amis de l'Académie des sciences, simplement un historien de la France et, à la rigueur, de l'Europe occidentale. XIIIe siècle, des glaciers reculés, des étés un peu plus chauds, pas plus chauds que ceux que nous connaissons depuis 10 ans, des hivers peut-être un peu moins froids, je répète, une belle période d'été chaud et sec de 1240 à 1290, un certain beau XIIIe siècle, plutôt favorable, me semble-t-il, à la production des céréales dans le bassin de Paris et de Londres. Certes, un été trop chaud, comme on l'a vu en 2003, peut être défavorable à la culture du blé à cause de la sécheresse et de ce qu'on appelle l'échaudage. Les épis de blé résistent mal à un coup de chaleur excessif. C'est le cas, par exemple, en 1236. Mais disons qu'en général, une série d'étés correctement chauds à la Bruegel, le tableau des moissonneurs, s'avère plutôt favorable à la maturation du blé. Lui-même, citoyen immigré, venu il y a 6000 ans du Moyen-Orient, et donc amateur d'une bonne dose de soleil. Donc des étés chauds au XIIIe siècle, c'est l'époque de Saint-Louis, de l'épanouissement de l'art gothique, il n'est pas exclu que ces belles chaleurs aient pu stimuler l'agriculture, l'économie, la démographie, affaire à suivre. Le petit âge glaciaire, qui n'a qu'un sens régional, là aussi je ne prétends pas qu'il est exactement à la même époque en Alaska ou en Nouvelle-Zélande, mais enfin, disons dans les Alpes, et en France, peut-être en Scandinavie, est assez net à partir de l'hiver 1303, travaux de Christian Pfister, des chercheurs de Berne et de Zurich, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que le petit âge glaciaire commence le 1er janvier 1303 à 0 heure. Il y a des poussées des glaciers alpins au XIVe siècle, notamment celui d'Aletsch en Suisse. On le sait par les troncs d'arbres datés par la dendrochronologie entre 1300 et 1370. On a corrélativement, et M. Bechler me reprochera de mêler la météo et le climat, mais enfin, de remarquables épisodes frais, notamment la grande famine de 1314-1516, les étés ayant été affectés par des trains de dépression, des étés pourris au cours desquels la ceinture des perturbations atlantiques, le fameux rail des dépressions, passe plus au sud, le foin ne sèche pas, les charrues s'embourbent, les anguilles se répandent hors de leurs étangs, les semailles d'automne et de printemps sont ratées, les rendements de blé sont misérables, les chevaux perdent leurs quatre fers dans la boue et l'on a de grosses famines avec des processions d'hommes plus ou moins nus pour essayer de réagir. On pense à Baudelaire, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, quand la terre est changée en un cachot humide, quand la pluie étalant ses immenses traînées et de longs corbillards, c'est la mortalité de famine et autres, sans tambour ni musique, etc. Baudelaire a dû écrire ce poème pendant un été pourri du temps de Napoléon III, mais cette description correspond bien aux étés du Poteau Noir, dotés de famine et de forte mortalité autour de 1315. Quant à la peste noire, elle aussi de 1348, elle n'est pas provoquée, semble-t-il, par le climat. Néanmoins, au cours de la décennie 1340, il y a un grand nombre des étés frais et pourris. Et il est possible qu'en 1348, mais nous n'en savons rien, le passage de la peste bubonique à la peste pulmonaire, la plus dangereuse, ait été influencé par cette fraîcheur pluvieuse estivale des années 1340. J'en arrive au XVe siècle, qui de ce point de vue est assez mal étudié. On note, en dépit du maintien de gros glaciers alpins, un petit réchauffement. Première moitié du XVe siècle, à l'époque de Jeanne d'Arc, mauvaise période par ailleurs, époque des guerres de Cent Ans, mais jolie série estivale de 1415 à 1435, on le voit sur des graphiques que j'ai distribués, avec des vendanges précoces, indicatrices de toute une série de beaux étés, un beau coin de ciel bleu, en somme, que l'on appellerait en France de nos jours une culotte de gendarme, ou en Belgique une culotte de zouave. De beaux étés qui n'ont pas produit tout l'effet voulu, car la période était difficile, les guerres de Cent Ans, des étés parfois excessivement chauds, producteurs d'un vif coup d'échaudage en 1420, générant lui-même une forte famine, due certes aussi à la guerre, mais également à la mauvaise récolte météorologiquement induite. À Noël 1420, le blé manque à Paris, le blé qu'on a récolté insuffisamment au mois de juin, sinon juillet. On entend les lamentations des petits-enfants qui crient « je meurs de faim ». Et sur les fumiers, c'est là qu'il fait le plus chaud en décembre, parmi Paris, pouviez trouver 10, 20 ou 30 enfants, fils et filles, qui mouraient là de faim et de froid, et n'étaient si dur cœur qui par nuit les ouïes criaient « hélas, je meurs de faim ». Il semble que l'été de 1420 était assez comparable en un peu moins chaud à celui de 2003 en un peu moins brûlant. Tous les mois de février à août 1420 furent de 2 à 3 degrés plus chauds que lors des moyennes, pourtant relativement tièdes, du XXe siècle. On signale encore des vendanges précoces, typiques d'étés très chauds, notamment en 1473, sans famine pourtant, parce qu'une pluie adéquate était tombée au bon moment. Les anneaux des arbres font apparaître néanmoins une période très chaude et sèche à la fin de l'été 1473. Anneaux d'arbres particulièrement durs correspondant à l'été terminal, très dépourvu d'eau, de pluie. Deuxième moitié du XVe siècle, malgré 1473, un rafraîchissement sensible dans l'ensemble, avec une grande famine de pluie en 1481 sous Louis XI. La situation est cependant moins grave qu'en 1315 ou 1420, car les guerres de Cent Ans sont terminées depuis 1452-53. La France est en pleine reconstruction des 50 glorieuses de l'époque, 1460-1510. La population est dynamique. On a en 1481, ce qu'on retrouvera en 1740 et à d'autres moments, un hiver très froid, un printemps et un été fort pourris, une famine assez importante. Et voilà que pour la première fois en France, le roi Louis XI essaie de prendre des mesures anti-famine. En 1315, par contre, le roi s'appelait Louis X le Hutin. Il n'avait rien fait contre la famine, sauf à envoyer du blé à ses troupes en Flandre et libérer quelques serfs à prix d'argent. À partir de Louis XI, la monarchie commence à s'intéresser quelque peu au bien-être du peuple et du reste, elle le paiera assez cher au XVIIIe siècle, car on lui reprocha de ne pas en faire assez, un peu comme en 2003, l'affaire Mattei. Nous en arrivons au XVIe siècle. Dès lors, on aperçoit de 1500 à 1560 une belle période avec beaucoup de beaux étés, des hivers doux. Les glaciers alpins reculent quelque peu. Ils restent cependant plus gros qu'aujourd'hui. Et les quatre saisons, hiver, printemps, été, automne, sont souvent, pas toujours, il y a la variabilité, douces, chaudes ou pas trop froides. Avec du coup, logiquement, quelques disettes d'échaudage du blé. Par exemple, en 1340, on a un très bel été chaud, le vin est tellement sucré qu'on en fait de l'apéritif. En 1523-1524, été chaud, c'est Madame Schwinn a montré que c'est l'été, qu'à l'été de 1523 est le plus chaud jusqu'en 2003, moins chaud quand même, le prix du pain augmente. 1500 maisons et 4 églises brûlent à Troyes ou à Troyes en Champagne, en 1524. En 1556, un été très chaud également, ce n'est pas l'été de 2003 quand même, incendie de forêt en Normandie et disette. Malgré tout, pendant ce beau XVIe siècle, 1500-1560, on enregistre une série fraîche, 1526-1531, avec en particulier une phase cyclonique dépressionnaire et pourrie. En 1527, hausse du prix du pain, Les emblavures sont gâtées au point que l'on doit sortir la chasse de Sainte-Geneviève, qui est surtout une sortie politique pour embêter la monarchie, aux fins de procession et de supplication. À partir de 1528, détérioration supplémentaire, la récolte céréalière est médiocre, les vendanges se font début octobre. En 1529, série de mauvaises récoltes, disette assez grave, année très froide, et c'est la fameuse grande rebelle, la révolte lyonnaise entre Saône et Rhône. Les greniers sont pillés, 11 émeutiers paient de leur vie leur participation à l'émeute, telle est l'habitude. Quoi qu'on en ait dit, ni les protestants, ni les corporations artisanales n'y sont pour quelque chose. Il s'agit simplement d'une rébellion typique à l'encontre du pain cher. D'une façon générale, il y a démarrage d'une problématique des pauvres lors des années 1526-1531, à Lyon en particulier, en France plus largement, mais aussi en Angleterre et en Allemagne, car la population augmente, le nombre des pauvres aussi, et le tout se heurte à ces quelques années climatiquement difficiles de 1526 à 1531. Le temps se gâte. À partir de 1560, les températures se rafraîchissent. Pour les quatre saisons, en gros, la température annuelle dans l'ouest de l'Europe baisse de 0,6 degrés centigrades en moyenne, notamment en été, mais aussi pendant les autres saisons. Les glaciers alpins progressent assez fortement. On le voit bien vers la fin du XVIe siècle, à Chamonix, au hameau du Châtelard, proche de la mer de glace, laquelle, en 1600, atteint et détruit des localités qui sont ou seraient aujourd'hui à plus d'un kilomètre en aval des fronts glaciaires. En Suisse également, le glacier d'en bas de Grindelwald prend des proportions éléphantesques. Il se porte à 560 mètres en avant de ses positions antérieures, celles de 1535. Il menace d'écraser des granges, des chapelles, d'autres bâtiments. Les 50 années qui vont de 1560 à 1600, voire 1609, se détachent ainsi assez nettement. Vendanges plus tardives, printemps-été plus frais, voire pourris eux aussi. De plus, on est en pleine guerre religieuse, très défavorable et même désastreuse pour l'économie. La crise de subsistance climatiquement déterminante de 1565-66 marque surtout un pic. Elle est précédée par la disette de 1562-63, consécutive aux mauvaises moissons de 1562. Dès avant cette date, les prix frumentaires ont commencé à monter, modérément mais régulièrement. Il y a aussi l'argent américain. La peste, partiellement conséquence, mais pas uniquement, de la disette, se déclenche avec une mortalité gigantesque en 1562-63, mortalité à laquelle nos historiens, avec quelques exceptions quand même, ne s'intéressent guère. Ils préfèrent contempler le fascinant voyage de Charles IX et de sa mère en 1564-65 dans toute la France, à travers des populations décimées peu auparavant. Un peu comme si la presse et les médias ne parlaient que du Tour de France ou du Paris-Dakar, après une catastrophe démographique qui aurait provoqué dans notre pays un minimum de 3 millions de morts. Il y a donc un jeu complexe, climat, famine, peste, guerre, qui assombrit considérablement la période. Le grand hiver de 1564-1565, comparable en moins rude à celui de 1709, a durement éprouvé la région parisienne, mais aussi les Pays-Bas et l'Angleterre, provoquant une crise frumentaire à laquelle les populations réagissent démographiquement par une baisse des conceptions, entraînant un déficit des naissances l'année suivante, novembre 1565, novembre 1566. Autre hiver notable, celui de 1572-73. Le froid, très rigoureux dans toute l'Europe du Nord, provoque une solide glaciation des eaux des rivières et des lacs, Allemagne méridionale, Autriche, Suisse, France. Donc des gelées hivernales et printanières qui tuent les semences. Viennent ensuite l'été et l'automne trempés, voyez 1480-1740, d'où des raisins peu mûrs et un vin acide qui tourne à la piquette. À signaler aussi l'automne 1585, fort humide, chose qui a dû compromettre les semailles, comme en 1692 et, pour les connaisseurs, en 1974. Et puis l'hiver suivant, 1585-1586, nettement glacial. Tout cela, c'est vraiment pour les Alpes, du petit âge glaciaire, pas forcément pour les montagnes rocheuses. Dès avril 1586, les pauvres ruraux, par troupes, coupent le blé à demi-mûr et le mangent à l'instant pour assouvir leur faim effrénée, dit Pierre de l'Estoile. Dans le même temps, les combats de religion entre protestants et ligueurs ultra-papistes, qui certes n'ont rien à voir avec le climat, aggravent pourtant les conséquences néfastes. Bataille, insécurité, les convois de grains circulent mal. Mai 1588, la Ligue. Pour conclure le XVIe siècle, la décennie 1590 se présente comme une suite d'années presque toutes froides ou du moins très fraîches. S'agissant de l'Angleterre élisabéthaine, qui à cette époque à la différence de la France, jouit d'une totale paix intérieure, on ne peut invoquer les guerres pour expliquer, en ces 10 années 1590-1599, à maintes reprises, le fort déficit démographique, l'excédent des décès sur les naissances, lui-même né de la cherté des grains, la disette, déficit frumentaire, notamment en 1597-1598, l'on peut même rapprocher ce phénomène de ce qu'écrit la même année Shakespeare dans le songe de Nuit d'été. Ainsi les vents, comme pour se venger, ont fait monter de la mer des brouillards contagieux, porteurs de contagion épidémique peut-être. Ceux-ci, retombant sur la terre, ont rendu les rivières si orgueilleuses et si gonflées qu'elles ont bientôt débordé sur la terre ferme. C'est en vain que le bœuf a tiré sous son joug. Le laboureur a sué tant et plus, mais sans le moindre succès. Le blé, encore en herbe verte, a pourri, avant même que les plis barbus ne se forment. Voyez la précision du texte. Dans les terres noyées, le parc clôturé est resté vide, déserté par les bestiaux qu'a frappé l'épizootie du murin. Les corbeaux s'engraissent aux dépens de ces troupeaux de cadavres. Humains, frères mortels, vous voudriez jouir de vos amusements d'hiver, mais la nuit n'est plus remplie du son des hymnes, ni des cantiques de Noël, car la lune, c'est pas le CO2, gouvernante des déluges, est pâle de fureur. Elle détrempe tout dans l'air, à tel point que fleurissent partout les rhumatismes. Il y a un peu une chute, là. Et les inversions de température. Les saisons sont altérées, et de parler ensuite des gelées couvertes de poils blancs piquant du nez dans le frais giron des roses cramoisies, c'est des choses qui n'arrivent pas aux académiciens. Fantaisie de poète, ce n'est pas si sûr car d'autres indications, escalade du prix du grain comme conséquence d'années pourries et de mauvaises récoltes, chute de la natalité, vont dans le même sens. Il y a bien eu une détresse économique pendant les rudes années 1597-1598 en Angleterre. Sur le continent, l'hiver 1597 est très neigeux, ce qui, une fois de plus, profite aux glaciers alpins, en pleine phase d'offensive maximale, laquelle culminera, je le disais, au tout début du XVIIe siècle. Globalement, tous les hivers de 1586 à 1605 sont neigeux, ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils sont froids du reste. Pensez aussi à la peinture flamande et hollandaise blanche de neige, de glace, de patineur en cette fin du XVIe, début XVIIe siècle. L'économie, maigre moisson, restrictions céréalières retentit sur la démographie. En France, on observe un net déficit des baptêmes pendant les années 1597-98. Déficit qui correspond à une baisse d'un quart ou d'un tiers du nombre des naissances nationales. De même, outre-Manche, il y a un excédent des morts inhabituel en cette Angleterre qui d'ordinaire est démographiquement beaucoup plus dynamique à l'époque que la France. On peut aussi se demander s'il n'y a pas de corrélation de cause à effet entre le petit âge glaciaire des Alpes, qui marque grosso modo les années 1560-1600, ou même 1560-1640, et les persécutions, les procès de sorcellerie, particulièrement nombreux dans tous les pays d'Europe pendant cette période. Car vous savez que les sorcières sont souvent accusées, entre autres choses, de détraquer le temps. Crise déficitaire du vin aussi, déficit des vendanges, manque de soleil, gelée et la consommation de vin trop cher diminue au profit de la bière dans des pays comme l'Autriche, le pays de Bade, l'Alsace, etc. J'en viens au XVIIe siècle, marqué en ses débuts par un froid intense. Les glaces marines se rapprochent des côtes d'Islande, les glaciers alpins atteignent leur maximum historique vers 1600-1610, à tel point qu'un peu plus tard, en juin 1644, Charles de Sales, coadjuteur de Genève et neveu de Saint-François de Sales, vient à Chamonix conduire une procession de quelques 300 personnes pour bénir solennellement au lieu dit Les Bois, sur le village duquel est imminent et menaçant de ruine un grand et épouvantable glacier poussé de haut de la montagne, ainsi que trois autres glaciers, les Bossons, etc., qui menacent différents hameaux. Par chance, la bénédiction épiscopale est efficace et semble faire reculer cette menace. Même tableau en Suisse. Le glacier d'Aletsch, qui progressait depuis de nombreuses années, atteint une hauteur extraordinaire en 1653. On fait donc appel aux jésuites qui viennent faire prédication, procession, bénédiction en septembre 1653 pour stopper, Saint-Ignace aidant, les velléités de progression du monstre. Tout au long du XVIIe siècle, les glaciers alpins restent assez constamment gros, mais ces redoutables pachydermes cessent de s'étendre plus en aval. C'est la différence avec la fin du XVIe siècle. La période 1560-1600 dans son ensemble était marquée par un plongeon thermique aux quatre saisons et le cas échéant par un excès de pluie en comparaison du beau XVIe siècle qui l'avait précédé, 1559. Le XVIIe siècle, moins agressif, conserve encore des caractéristiques froides bien marquées. Même si certains étés, 1616, dominés par une énorme vague de chaleur, 1636, 1666, 1684 sont déjà sensiblement plus réchauffés. Mais de 1601 à 1675, par exemple, 70% des hivers néerlandais sont pluvieux et ou neigeux. Et le premier quart du siècle relève encore du petit âge glaciaire, avec des hauts et des bas, voire jusqu'en 1643 ou même plus tard. Dans l'ensemble, les deux premières décennies jusqu'en 1620 furent quand même plutôt favorables pour le bon peuple, la poule au pot d'Henri IV, ce qui était dû à la paix, mais aussi à l'absence de gros désastres climatiques et à l'occurrence d'une bonne quinzaine d'années de relative abondance des grains. Cependant, 1621 marque un changement. Printemps frais, surtout en avril. Été 1621 particulièrement frais. Vendange très tardive. L'hiver 1621-1622 commence dès la mi-décembre et dure 2 mois. L'année 1622 est redoutable. Grande famine en Angleterre, ce qui était la dernière grande famine anglaise, ce pays étant plus économiquement plus perfectionné que sur le continent. Prix maxima du blé en France, mortalité parisienne en ascension libre. La disette britannique de 1622-23 se fait ressentir jusqu'aux Pays-Bas et en Lorraine, compliquée alors par les premières difficultés liées à la guerre de 30 ans. À cette décennie fraîche succèdent des années particulièrement pluvieuses et humides, notamment donnant de mauvaises récoltes. Pour l'ensemble des années 1620-1630, le mouvement de hausse des prix du grain est net, avec des raisons militaires, démographiques et météorologiques. La peste, corrélative, pas toujours, de la disette, fait rage dans l'ouest de la France. Elle ravage les peuplements. Les pauvres gens se réunissent en assemblées revendicatives. La municipalité d'Agen, ville environnée alors de vraies famines, emprunte pour trouver l'argent nécessaire à acheter du grain. La disette sévit aussi en Bretagne et dans le nord de la France. La pointe de mortalité de 1631, Jacques Dupaquier le sait, est l'une des plus fortes connues. En 1636 aussi, et là c'est un peu différent, violente éruption du nombre des morts. La situation frémentaire est pourtant excellente. On a un certain nombre d'étés chauds entre 1635 et 1638 ou 1639. Les étés, paradoxalement, sont radieux, trop radieux sans doute, trop calorifiques, belles moissons, vendanges précoces. Mais le niveau d'eau des rivières et des nappes phréatiques a trop baissé. Elles sont polluées, sales, d'où une dysenterie peut-être catastrophique. Les années qui précèdent la fronde, 1640-1643, et la première fronde elle-même, 1648-1650, sont marquées par un net rafraîchissement du climat dans la moitié nord du royaume, avec de médiocres moissons, des difficultés frumentaires, des émeutes de subsistance dans le sud-ouest, 1640-1643. La situation devient carrément catastrophique dans le Rouergue. Les habitants sont à la faim, mangeant, disent-ils, du pain seulement 2 ou 3 fois à la semaine. On abandonne les terres, les familles sont décimées. C'est dans ce contexte de hausse des prix du blé qu'éclate la fronde. Hiver 1648, et elle se prolonge surtout. Hiver 1648-1649, froid. Inondations, pluie, gel, neige en France et dans le nord de l'Europe. Été 1649, dépressionnaire et pourri. Siège de Paris, qui n'a rien à voir avec la météo, bien sûr. De janvier à mars-avril. La situation prend une allure assez désastreuse. En 1652, horrible printemps, la guerre, et non pas le climat, à l'échelle nationale, peut-être entre 400 000 et 500 000 morts. Fait remarquable, la même période voit 6 révolutions contemporaines lors des années 1640-1659, en Catalogne, Portugal, Naples, France, Angleterre, Pays-Bas. Les deux séries, politiques et climatiques, sont indépendantes l'une de l'autre, il faut le souligner. Mais elles entretiennent certains contacts. Il y a bien une composante météo-traumatique, froide, humide, météo-déficitaire en blé, réelle, sinon décisive, par rapport à la politique. Les 4 années de fronde le montrent. La hausse des prix du blé, engendrée par le mauvais climat pluvieux, et les mauvaises récoltes en synchronisme avec la fronde, attisent un mécontentement populaire, dont les origines, elles, sont bien entendu politiques et non pas, j'y insiste, climatiques. Autre fait notable, la période 1645-1715, le règne de Louis XIV, bien sûr, est parfois spécialement fraîche, avec un déficit prolongé en taches solaires. C'est ce qu'on appelle le fameux minimum de Maundea, puisqu'on a, c'est le moment où l'astronomie est installée par le pouvoir royal, ce c'est le début du CNRS, création de l'Observatoire de Paris. Donc on peut se fier aux observations qui étaient faites à l'époque quant à ce déficit des taches solaires avec Cassini et quelques autres. Le soleil est ainsi sujet à des fluctuations d'activité qui retentissent peut-être sur le climat. En tout cas, la phase dite de Maunder est, semble-t-il, contemporaine par moments, les années 1690 jusqu'à 1700, d'un refroidissement hivernal et parfois estival des températures dans lequel les variations solaires ont pu jouer un rôle. Adieu parfois les beaux étés, chauds, secs, propices aux boissons. On a des temps de famine lors de la seconde moitié du règne de Louis XIV, en Écosse, en France, et dans les pays nordiques, mais aussi Adieu les semailles automnales faciles, elles deviennent de temps à autre très difficiles. 1692, je parlais tout à l'heure de 1974, en des labours détrempés, collants, boueux. Cela contraste avec les années 1635-1638, jadis marquées par des printemps-étés généralement chauds et doux, avec une relative pléthore frumentaire. Dès 1658, les choses se gâtent, inondations catastrophiques. 1661, pluviosité continuelle, très dangereuse pour les céréales. Un désastre sans nom. La mortalité maximale sévit pendant les deux derniers trimestres de 1661 et les deux premiers de 1662. Famine, raréfaction des mariages qui réduit les conceptions et les naissances, la France subit un demi-million de décès supplémentaires, soit 1,5 million de morts à l'échelle des 60 millions d'habitants de 2005. C'est toutefois moins que plus tard, en 1693-94 et 1709-1710. Ce qui n'empêche pas le roi Louis XIV de conduire le grand ballet du carrousel d'un faste inouï en juin 1662, au moment du maximum des prix du blé, tout en menant pour la première fois une vaste et judicieuse politique sociale d'importation du blé. 1675, encore un été pourri à une vaste dépression arrimée sur l'Angleterre dès le mois de juin. Madame de Sévigné grelotte à Paris l'été, comme sa fille en Provence. Il fait un froid horrible, nous nous chauffons et vous aussi, ce qui est une bien plus grande merveille. Il est possible que cette saison estivale plombée soit due, au moins en partie, aux poussières répandues autour de la planète par les éruptions volcaniques en Indonésie. En revanche, la décennie 1680 est remarquablement chaude et sèche, au moins pour les étés, en Languedoc. C'est le moment où Louis XIV, favorisé par le soleil et les bonnes récoltes et les bas prix, pour payer ses soldats, pour payer les ouvriers de Versailles, a tout pouvoir pour développer les grandes idées du règne, paix de Ratisbonne en 1684 et surtout, hélas, révocation de l'édit de Nantes en 1685, qui est à Louis XIV, ce que l'expédition des Dardanelles est à Churchill. Mais dès 1687 commence une décennie allongée, 1687-1703, qui sera la plus froide jusqu'à nos jours et fertile en catastrophes alimentaires. 1691-92, hiver froid, très neigeux, ce qui en soi n'est pas grave. Printemps 92, début de l'été, frais et pluvieux, avec des abats d'eau considérables, moissons à demi manquées, vendanges ultra tardives. À l'automne, les semailles sont complètement ratées et l'on a une grande famine en 1693, ce qui donne en deux ou trois ans 1 300 000 morts supplémentaires. C'est l'occurrence d'une disette géante, compliquée par la guerre de la Ligue d'Augsbourg et des impôts très lourds. 1 300 000 morts en plus, cela ferait aujourd'hui presque 4 millions de décès en proportion. Les peuples ressentent durement cette forte mortalité. Les années 1690-99 sont fort dures à passer. Ce sont parmi les années les plus froides que l'on ait connues en Europe, avec beaucoup de pluviosité, des flux dépressionnaires venus de l'Atlantique incessants en France, mais aussi en Finlande, en Suède, en particulier 1696-97. En Écosse aussi, ce fut très rude. L'Angleterre, déjà modernisée, s'en est assez bien sortie. Mais l'Écosse est une agriculture plus primitive, plus vulnérable que le royaume anglais. C'est donc la dernière famine écossaise de l'âge moderne. En Finlande, ce fut très grave. Un tiers de la population est morte de faim et de maladie en 1696-97. Épisode démographiquement presque comparable à la peste noire de 1348, mais sur une population peu nombreuse. Donc une dizaine d'années, les 1690-99, avec une succession quasi permanente d'hivers très froids et d'étés pourris. Ce qui ne veut pas dire qu'intervient une famine chaque année, mais cela signifie que des fenêtres d'opportunité s'ouvrent le cas échéant pour donner libre cours à telle ou telle famine. Il y en a donc, je le disais, d'assez fréquentes en cette période. On signalera en un style analogue, mais avec un contexte météo un peu différent, l'hiver de 1709. C'est, d'après Luther Bacher, l'hiver le plus froid qu'on ait connu en Europe depuis 1500, depuis 5 siècles. Humainement un peu moins rude que 1693. 600 000 morts seulement dans la foulée en 1709-1710. D'une part, un petit nombre de gens morts de froid en janvier-février, mais surtout les semailles sont tuées, d'où famine en 1709-1710, même si on a ressemé de l'orge au printemps 1709, ce qui a permis à beaucoup de gens de survivre. Néanmoins, 600 000 décès supplémentaires, ce qui ferait aujourd'hui 1 800 000 morts, c'est-à-dire en un an et demi plus que la guerre de 14-18 en 4 ans. Dès le début du 18e, on ressent pourtant presque partout une petite reprise de chaleur. Elle est très nette après l'hiver 1709. Le 18e siècle, sans être aussi chaud que le 20e, peut-être pas de bout en bout, s'avère assez souvent moins désagréable que certaines périodes du 17e. Les glaciers alpins du 18e restent gros mais reculent un peu. Tout ceci fut, semble-t-il, enfin, la chaleur, assez favorable pour la démographie et l'économie. Vous avez donc une forte reprise, en tout cas, de la croissance économique 18e en Europe, en France et aussi en Chine. Si bien que l'on peut se demander si ce n'est pas l'ensemble de l'Eurasie du Nord qui a bénéficié dans l'hémisphère nord de ce léger réchauffement du 18e siècle. À moins d'admettre, bien sûr, que l'expansion très forte de la population chinoise au 18e siècle s'explique par la croissance des ventes de porcelaine de ce pays à la Compagnie des Indes européennes, ce qui ne paraît guère sérieux. Mais une telle chaleur a aussi ses inconvénients. On connaît de ce fait des années de canicule, 1704, 1705, 1706, 1718, 1719, l'automne de 1747 et enfin 1779. Ces divers coups de grosse chaleur ont provoqué des dysenteries, baisse de la nappe phréatique, eau pourrie dans les rivières, infections, etc. En 1704-1706, cela donne 200 000 morts de plus en 3 ans. En 1719, 450 000 morts supplémentaires en un an, dont beaucoup de bébés, de petits-enfants, chiffre bien supérieur à ceux de la canicule 2003, 15 000 morts. Ce qui est extraordinaire, c'est que personne n'en parle dans les médias de 1719. Ils existaient, sauf les curés, qui envoyaient au paradis toutes ces petites âmes et qui notaient la chose avec tristesse. 450 000 morts sur 20 millions d'habitants, cela ferait quand même 1 350 000 morts en 2005. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Vous avez sûrement lu l'histoire de la Régence, celle de Philippe d'Orléans, un homme sympathique, qui a su détendre les ressorts précédemment bandés à bloc de la monarchie, au temps du règne dur de Louis XIV. Il y a Louis XIV et Philippe d'Orléans, comme il y aura Staline et Khrouchtchev. Mais les 450 000 morts, personne n'en parle. Même chose en 1747 pour l'automne et en 1779, selon le cas automne où était trop chaud, donc dysentérique. Mais seulement 200 000 morts à chaque fois, supplémentaires. C'est moins pire qu'en 1719, on n'arrête pas le progrès. Malgré tout, on note aussi dans le sens inverse quelques années pourries. Celle de 1725, où certes la famine proprement dite ne sévit point. Mais on a pourtant un été sombre, très nuageux, pourri, avec une récolte médiocre, une cherté, pas mal d'émeutes. Les gens crient à la faim, à tort ou à raison. Quand le cardinal Fleury, premier ministre, passe dans son carrosse, la foule essaie de renverser le véhicule et, comme on dit, le peuple mourait de faim, le cardinal mourait de peur. Il faut se mettre à la place de son éminence, qui était quand même très âgée. En 1740, une année très rude, quatre saisons froides et disettes, un peu comme en 1481, comme en 1565. Quatre saisons froides et l'expression célèbre « je m'en fous » comme de l'an 40. Vous connaissez cette phrase, elle remonte précisément, paraît-il, en 1740 et elle signifie qu'on s'en fout vraiment. Nous en venons à la Révolution française, mais prenons un peu d'avance. Après quelques années d'abondante récolte en blé, du coup on a libéré le commerce des grains en 1764, on est confronté à une année froide et pourrie en 1770, et même à un cycle de ces années, fort déficit frumentaire, grosse crise économique, textile, etc., en Allemagne notamment. En France, il faut renoncer au laisser-faire en matière de négoce des céréales, et donc il y a retour au dirigisme, notamment cher à l'abbé Théré, 1770-71. Rappelons qu'à des époques plus tardives, pendant les deux guerres mondiales, même les politiciens les plus libéraux, les plus madelinistes, ont dû admettre le système autoritaire des tickets de pain. Libéralisme et liberté des échanges, c'est bien gentil. Mais ça veut surtout pour les années d'abondance où tout marche comme il faut. Dès que Dame Pénurie fait son comeback, il faut serrer les boulons de l'autoritarisme. Un nouveau cycle plus tiède peut-être, les années post-1772, voire jusqu'en 1811, commencent par un an 1774 assez chaud certes, mais extrêmement pluvieux, médiocre, médiocre récolte de blé, début de disette, quoique les temps de vraie famine appartiennent au passé. C'est la guerre des farines du printemps 1775, émeute frumentaire un peu partout. Arrive la Révolution française, 1788, et d'abord, un automne pourri, fin 87, cela gêne les semailles. Un printemps 88, très chaud à Pâques, échaudage sensible des blés. Puis la fameuse grêle du 13 juillet 88, mais elle ne concerne que 1000 villages. Or, il y a 37 000 villages en France, et la récolte a été médiocre dans tout le royaume, à cause d'un printemps et d'un été trop chaud, et puis des grosses pluies et des orages en août 88 qui abîment la moisson. Ainsi, douche, fin 87, sauna, printanier 88, puis douche estivale 88. Complexité toujours, appelé Edgar Morin. De fait, on a une mauvaise récolte nationale. C'est l'inconvénient des étés trop chauds parce que le nord souffre de l'excès de soleil et le midi, bien sûr, également. L'hexagone tout entier est surchauffé par un soleil trop ardent. Émeute de subsistance, par conséquent. Et l'on arrive ainsi à la plus grande émeute politico-subsistentielle connue, celle du 14 juillet 89. Vous connaissez la suite. le climat se borne à donner une inscription chronologique pour un événementiel qui, lui, est spécifiquement politique, culturel, nullement météorologique. 1794, bientôt les thermidoriens, année chaude elle aussi. Je ne parle que d'un point de vue météo, bien sûr. 1794, quant au blé, eut droit au coup d'échaudage très fort, avec le fameux orage. Et d'autre part, il s'agit, 94, d'une année relativement instable, avec un taux de variabilité très intense. Chaleur de sauna, printemps, début de l'été 94, le tout entrelardé, comme en 88, de grosses pluies, ouragans, orages, grêles. C'est le modèle sauna-douche, une fois de plus. Mésaventure météo de Robespierre, 9-10 thermidors. Mais surtout, récolte 94 mauvaise, et du coup, on a une grosse disette, très grosse, au printemps 95. C'est toujours au printemps que les gens crèvent de faim. Viennent donc les fameuses émeutes de Germinal et de Prairial 95, ces mois de printemps disetteux, qui mettent fin à la période violente de la Révolution française, à la période de gauche, peut-on dire, puisque ces soulèvements populaires subsistentiels sont réprimés très fortement par les thermidoriens et autres milices droitières, autant des merveilleux et des incroyables. C'est la fin des sans-culottes. Sous l'Empire, la police est bien organisée grâce à Fouché, qui s'était fait la main sur les malheureux lyonnais, comme vous savez. Donc, au temps de Napoléon, quelques problèmes. Un hiver très rude en 1802 à la 1481, puis 1811, elle était très chaud, le fameux vin de la comète, une comète qui n'y était pour rien, un vin délicieux, mais c'est une crise alimentaire due à l'échaudage. Des émeutes, mais je le répète, faites confiance aux policiers de l'empereur. Le plus remarquable, c'est la reprise ou le revenez-y du petit âge glaciaire entre 1812-15 et 1859, avec surtout une grosse fraîcheur entre 1812 et 1820, suivie d'une nouvelle poussée maximale des glaciers alpins, retrouvant leur dimension du début du XVIIe siècle. Déviation vers le sud des trajectoires des cyclones, fréquence accrue des tempêtes, expansion peut-être de la calotte glaciaire de l'Arctique. Et l'on note en particulier, assombrissante à force de poussière, l'explosion d'avril 1815 du volcan de Tambora en Indonésie. Début avril, on signalait déjà des borborygmes à Tambora, quelques soubresauts. Et puis le 10 avril 1815 à 19h, paroxysme, trois colonnes de flammes montent à 50 km d'altitude, en même temps que le sommet de la montagne Tambora se liquéfie littéralement. Vers 22-23 heures, les flammes retombent. La caldeira est formée, elle a 6 km de diamètre. Soi-disant 86 000 morts dans cette région, j'ignore comment les compter. Fracas ultra bruyant, tsunami jusqu'à Bornéo. Le mont Tambora, haut jusqu'alors de 4300 mètres à Petit Mont Blanc, ne compte plus que 2850 mètres après l'explosion. Gros nuages de poussière autour de la planète. Ciel brouillé, l'éclipse de lune de juin 1816 à Londres est impossible à observer. Année sans été en 1816. Température en baisse d'un demi-degré en moyenne sur l'Europe et l'Amérique. Est-ce ainsi qu'est apparu le choléra en Inde? En tout cas pour l'Europe, c'est l'année la plus froide de la décennie 1810-1819. Récolte des cannes à sucre en Alabama et en Louisiane diminuée. Au Canada, en Irlande, la famine habituelle. C'est l'été 1816, des disettes un peu partout. Et on a pu heureusement faire venir du blé de Russie, puisque semble-t-il le ciel russe avait eu moins de poussière venue de l'Atlantique que le ciel français. 1816, l'année sans été, c'est là que Mary Shelley, elle devait avoir 19 ans à l'époque, enfermée avec Byron et Shelley, excusez du peu, dans un chalet au bord du lac Léman, chalet sur lequel il pleuvait constamment pendant ce fatal été, Mary Shelley donc, accouche du monstre le plus extraordinaire qui soit jamais sorti de l'imagination d'une jeune femme, Frankenstein. Tant et si bien que la reprise économique post-napoléonienne ne commence vraiment post-effet Tambora qu'à partir de 1817 et surtout 1818. Glissant sur la monarchie de la Restauration, la monarchie de Juillet, notons en 1845 et surtout 1846, l'année très chaude 1846, avec une disette, crise économique de 1847, très forte sur l'Europe continentale, en Angleterre, et inscription chronologique d'une révolution européenne qui commence en février 1848 en France, dont les causes, répétons-le, n'ont strictement rien de climatique, mais l'effet provocateur de la météo a pu jouer un rôle par le complexe disette et crise économique. Depuis 1859-60, nous sommes au point terminal du petit âge glaciaire de l'Europe de l'Ouest. Ailleurs, c'est sans doute différent. Les glaciers alpins reculent constamment depuis 1859. Le paradoxe, c'est que le réchauffement... Je pense qu'il y a une série d'étés chauds dans les années 1860, une autre dans les années 1890, mais que le véritable réchauffement ne commence qu'après 1903, au XXe siècle. Donc là, il y a un petit mystère. Peut-être diminution des précipitations des Jeux, deuxième moitié du XIXe siècle, je ne sais pas. Il faudrait envisager le XXe siècle, avec bien sûr le réchauffement que chacun connaît. Il me semble qu'il est déjà assez net avec les grands étés de la décennie 1940, les étés chauds et secs de l'occupation, l'été 1947, connoté avec une mauvaise récolte due à l'échaudage, les importations de cornes. L'histoire du climat, donc, j'ai eu quelques élèves en Suisse, en Belgique, pas tellement en France. Peut-être j'étais trop tôt au Collège de France, je n'ai pas eu le peuple, les jeunes filles en fleurs que vous avez, chers amis, à la Sorbonne. Mais je pense que maintenant, il y a un intérêt certain. Et je vois des jeunes femmes même qui viennent me voir maintenant des scientifiques, des littéraires, pour des réflexions sur l'histoire du climat. Il me semble qu'en tout cas, elle a un passé et un avenir avec tous ces problèmes que pose aujourd'hui l'effet de serre.
C'était l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, prononçant une communication publique en séance publique, donc le lundi 4 avril 2005. Peut-on écrire l'histoire du climat ? Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette communication et des autres communications prononcées dans le même cadre sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques. Voici l'adresse internet www.asmep.fr. Dans les prochaines heures, vous pourrez réentendre la diffusion de cette communication de monsieur Emmanuel Leroy-Ladurie, et dans un instant, la suite de votre programme.